Ferdinand Brunetière, Le mal du siècle. Qu'est-ce que le mal du siècle? Oh, il serait difficile, mais heureusement fort inutile, de le définir. On ne débute pas en physiologie par une définition de la vie, non plus qu'en psychologie par une définition de l'âme. Savoir, c'est connaître par les causes. Ce sont les causes du mal du siècle qu'il s'agit d'analyser d'abord. La définition viendra plus tard, ou elle ne viendra pas. Ce n'est pas une affaire. Laissons de côté les causes générales. Elles ne prouvent ni n'expliquent rien, parce qu'elles expliquent et prouvent trop. Assurément, la révolution profonde qui s'est accomplie dans les idées vers la fin du dernier siècle, dont notre révolution française n'est rien que le plus dramatique épisode, n'a pu manquer d'avoir son retentissement et d'exercer son influence même sur ceux qui l'ont combattue, qui la combattent encore et qui la combattront. Connaissez-vous une curieuse parole d'Esquirol ? L'influence de nos troubles politiques, dit-il quelque part, était si profonde que je pourrais donner l'histoire de notre révolution, depuis la prise de la Bastille jusqu'à la dernière apparition de Bonaparte, par celle de quelques aliénés dont la folie se rattache aux événements qui ont signalé cette période de notre histoire. Lorsque la trompette trouble et bouleverse ainsi les intelligences qu'on peut considérer comme moyennes, quels effets n'admettrez-vous pas qu'elles doivent produire sur les imaginations fortes? Seulement, ce qu'Esquirol disait de la Révolution française, il était bien convaincu, et nous le sommes avec lui, qu'il eût pu le dire de la réforme ou des guerres de religion. À tout prendre, parmi ces causes générales et profondes, je n'en vois vraiment qu'une qui fut de nature à précipiter les esprits dans ce doute incurable et dans ce désert sans issue qui seront les caractères de la maladie du siècle. C'est à savoir le démenti sanglant donné par la brutalité des faits au rêve d'or de la philosophie du XVIIIe siècle. Mais justement, je doute que vous trouviez que Rousseau ni Goethe, cela va sans dire puisque la Nouvelle Héloïse est de 1760 et Werther de 1775, ni Chateaubriand ni Bayon en ont été particulièrement affectés. Il faut donc descendre à des causes plus spéciales et chercher un commencement d'explication dans l'analyse même de l'organisation et du tempérament de l'artiste ou du poète. Car il faut bien en convenir, l'artiste ou le poète ne sont pas créatures tout à fait semblables au commun des mortels. Rousseau, Goethe ou Byron ne sont pas précisément des garçons horlogers, des conseillers de cour ou des pairs d'Angleterre, qui prendraient la plume à leur moment perdu pour se délasser comme on prend une canne après avoir fermé boutique ou comme on demande à sa voiture pour aller faire un tour aux promenades. Mais ils ont leur organisation de poète, c'est-à-dire la fibre plus délicate, plus nerveuse, plus irritable, et les sens plus fins, l'imagination plus forte. Telles expressions qui glissent sur notre épiderme plus grossier pénètrent, retentissent et se prolongent plus profondément en eux pour s'y multiplier d'elles-mêmes. Ils sentent ce que nous ne sentons pas. Ajoutez que la manière et non la réalité des choses suffit pour remplir toute la capacité de leur âme, parce que les moindres objets produisant de grands mouvements dans les fibres délicates de leur cerveau, elles excitent par une suite nécessaire dans leur âme des sentiments assez vifs et assez grands pour l'occuper tout entière. C'est pourquoi de très vulgaires contrariétés les atteignent aux sources mêmes de la vie. C'est pourquoi des accidents insignifiants aux autres hommes leur sont d'irréparables malheurs. C'est pourquoi vous êtes envers eux souverainement injuste si vous comparez leurs souffrances aux souffrances du vulgaire. Eh bien, oui, si vous ne regardez qu'à la superficie des choses, il pourra bien vous sembler que ni Jean-Jacques, ni Byron, ni tant d'autres n'ont été si malheureux, ni maltraités par le monde, ni cruellement persécutés par le sort. Si Rousseau, dans ses Confessions, note presque involontairement qu'à partir de tel jour il a cessé de connaître la fin, vous pouvez répondre en effet, avec l'autorité du bon sens et l'inhumanité du pharisien, qu'il y a de par le monde quantité de misérables qui passent leur vie tout entière uniquement à combiner des moyens de se défendre de la faim, et qui ne remplissent pas pour cela l'univers de leurs lamentations. Maintenant, c'est Byron qui, par la bouche de Conrad, de Lara, de Manfred, répand avec cette abondance de sarcasme que nul n'a surpassé son mépris et ses malédictions sur le monde. Quoi ? Que lui est-il arrivé ? Quelles épreuves extraordinaires a-t-il bien pu traverser ? Quelles tortures nouvelles a-t-elle subi ? Il est fatigué de vivre et il meurt du dégoût d'exister. Voir, ce n'est que cela, repart le cœur des pharisiens. Eh bien, s'il n'avait pas abusé de la vie, il n'en serait pas dégoûté. Nous en sommes dégoûtés, nous. S'il n'avait pas abusé des plaisirs, il n'en serait pas rassasié. Est-ce que nous en sommes rassasiés ? Non, sans doute. Vous n'êtes ni rassasié ni dégoûté. Si vous n'aviez pas reçu d'en haut, et ce don fatal, cette rare et redoutable faculté de vivre en un quart d'heure une vie tout entière, et d'épuiser dans une seule expérience toute la douleur et toute la volupté. Mais eux, c'est en quoi précisément ils sont poètes ? Ils vivent comme tout le monde et sentent comme personne. C'est leur misère, mais c'est leur grandeur. Étonnez-vous après cela qu'ils aient familièrement le désespoir dans le cœur et le blasphème à la bouche. Dirais-je qu'ils sont malades ? Oh, ce sera comme vous le voudrez, ou plutôt comme vous l'entendrez. L'extrême esprit est accusé de folie comme l'extrême défaut. Rien que la médiocrité n'est bon. C'est la pluralité qui a établi cela et qui mord quiconque n'en échappe pas par quelque bouc que ce soit. Lorsque le poète Rousseau, Byron ou Chateaubriand, découvrant quelque côté jusqu'alors mal connu de l'humaine nature, exprime quelques sentiments dont la nouveauté nous étonne, nous nous écrions d'abord que ce sentiment n'est pas dans la nature humaine. En effet, il n'est pas dans la nôtre, ou du moins il n'y est que l'état vague et confus de malaise intérieur, et nous ne l'y avions pas aperçu. Si donc toutes les fois qu'il dépassera les têtes vulgaires, on est malade, toutes les fois qu'on découvrira dans les profondeurs de soi-même quelque chose qui n'est pas en tout le monde, on est malade, si toutes les fois qu'on souffrira de douleur au-delà de ce qu'il est convenu qu'on doit souffrir, on est malade, oui, les Jean-Jacques, le Byron et le Chateaubriand sont malades. Des êtres singulièrement consumés doivent nécessairement s'exprimer autrement que les hommes ordinaires. Il est impossible qu'avec des âmes si différemment modifiées, ils ne portent pas en eux l'expression de leurs sentiments et de leurs idées, l'empreinte de toute modification. Et telle est bien, pour le dire en passant, l'erreur où quelques médecins ont donné quand ils ont émis ce surprenant aphorisme que le génie n'est qu'une névrose. Car, comme il se disait, qu'en la place de Jean-Jacques ou de Byron, ils n'eussent assurément pas ressenti, pour des mots si vulgaires, de si sensibles atteintes, ils accumulaient bien au courant de leur thèse force d'observation médicale, mais au fond, il les déclarait fous d'avoir fait tant de bruit pour rien. Il ne réfléchissait pas que n'y ait rien d'un homme à un autre homme, ou dans le même homme selon les circonstances, qui soit plus divers que les sensations, plus variable que les sentiments, plus noble et changeant que l'imagination. On n'est pas nécessairement fou, ni seulement malade, ni même exposé à le devenir jamais, parce qu'on a des sensations plus fortes ou des sentiments plus poignants, ou une imagination, j'oserais dire, plus visionnaire que le commun des hommes, et voire des bons esprits. Que d'ailleurs cette exaltation de la sensibilité puisse dégénérer parfois en une affection dont les inégalités, les bizarreries et les manifestations extérieures est véritablement je ne sais quoi de morbide, on peut l'admettre. Et encore ici, cependant, si l'on veut bien prendre la peine d'y regarder d'un peu près, on trouvera que dans l'espèce, quoique quelques causes plus particulières et toutes personnelles est intervenue. S'il faut repousser comme une injure à la dignité de l'homme toute parenté qui cesserait, sur de fausses analogies, d'établir entre l'aliénation mentale et le génie, cependant on ne peut pas oublier que le moral dépend du physique et qu'il éprouve quelquefois de terribles effets de cette tyrannie. Le spiritualisme ne saurait consister, comme on l'a cru trop souvent, à dissocier ce que la nature a inséparablement uni. L'hypocondrie, bien caractérisée de Rousseau, ne peut pas ne pas avoir affecté sa pensée. Et si Byron, jusqu'à son dernier jour, n'avait pas ressenti de traîner son pied beau, une humiliation plus douloureuse que de tous les anathèmes de la pruderie britannique, il n'aurait pas sans doute été tout à fait le même Byron. L'une des origines de la mélancolie de l'auteur d'Obermann est certainement dans l'espèce de honte et de désespoir qu'il éprouvait d'avoir, dans la force de l'âge, par l'effet d'une singulière atrophie, les bras plus faibles que ceux d'un enfant. Leopardi n'a-t-il pas trop vivement protesté contre la lâcheté de ceux qui s'attachaient moins à détruire ses observations et ses raisonnements qu'à accuser ses maladies, pour que nous puissions douter de l'influence de ses maladies sur les raisonnements? Et croyez-vous qu'Henry Heine ait tort ou qui ne parle que par métaphore, quand il dit ingénieusement « La nuance rose qui domine dans les écrits de Novalis n'est pas la couleur de la santé, mais bien l'éclat menteur de la pluie phtisie et la teinte de pourpre qui anime les contes d'Hoffmann n'est pas la flamme du génie, mais bien le feu de la fièvre. » Est-il possible de vouloir étudier la maladie du siècle et d'éliminer d'entre la foule infinie des causes qui l'ont pu provoquer une cause aussi puissante, aussi constamment agissante, aussi sûre et certaine de ses effets que la souffrance ou la faiblesse physique? Croirez-vous encore que les conditions matérielles de la vie ne sont rien à la mélancolie de la plupart des illustres malades? Que l'on éprouve quelque répugnance à mêler dans la biographie de l'artiste ou du poète les questions d'argent à l'appréciation de ses œuvres, cela se conçoit, il n'y a rien de plus naturel. Mais s'il sait quelquefois le moyen d'animer une biographie, nous convenons volontiers qu'à l'ordinaire, nous importons si peu de choses de savoir l'état de la bourse d'un grand homme que de connaître la couleur de ses bas. Mais comme le dit Sélancourt, dans une sorte de confession, celui qui ne verrait dans la pauvreté que l'effet direct de la privation d'argent n'aurait aucune idée du malheur, car la non-dépense est le moindre mal de la pauvreté. Presque tous ces grands mélancoliques ont connu les embarras d'argent, qui la dette et qui la pénurie, l'un l'étroitesse du domestique et l'autre l'incertitude même du lendemain. Lisez toutes les mille humiliations que ces mots bien vulgaires traînent pourtant à leur suite. Tel a senti du moment l'inconvénient de vivre avec des gens d'un autre état que le sien, et tel autre, vers 40 ans, repassant son existence et n'y trouvant pas les semaines heureuses, comptait au nombre de ses griefs contre la destinée celui de n'avoir jamais eu cabinet commode et solitaire qui leur ait été indispensable. Cette humiliation ou cette angoisse de la pauvreté, qui niera que ce soit un élément auquel on doit faire la part? Puisque nous parlons médecine, dans l'étiologie de la maladie du siècle, autrement, puisque dans aucun siècle, peut-être, l'or n'a pas plus brutalement exercé sa grossière domination que de nos jours, ce serait faire abstraction du siècle dans l'étude de la maladie du siècle. Il est vrai que cela ne coûte pas beaucoup quand on commence par faire abstraction du malade. Mais maintenant, si faisant abstraction du malade, l'abstraction du siècle, vous voulez cependant étudier la maladie du siècle, que reste-t-il? On dira... Mais pourquoi donc alors toutes ces causes n'ont elles pas agi de tout temps? Et pour quel privilège d'infortune avons-nous été choisis pour en être les victimes? Nous nous vantons, si nous le croyons. Sainte-Beuve, qui devait s'y connaître, prétendait que Job et Salomon avaient souffert de ce même mal intérieur. Ce qui est certain, c'est que les Grecs n'avaient pas attendu pour inventer le mot de mélancolie, bile noire, que nous eussions approuvé la chose. Tous les mystiques du Moyen-Âge, ou presque tous, ont été touchés, et quelques-uns à fond. Oh, je n'affirmerai pas, enfin, qu'en plein XVIIe siècle, un Pascal, un Racine, même un La Bruyère, peut-être, pour ceux qui regardent l'histoire de notre littérature, n'en eussent ressenti les atteintes. Cependant, il n'est pas douteux qu'au commencement de ce siècle, il y eut comme un redoublement de l'épidémie. En voici, je crois, l'une des raisons que l'on peut donner. J'ai cité plus haut un mot célèbre de Pascal, mais je n'ai pas achevé la citation. Vous n'avez peut-être pas remarqué que, quand on cite Pascal, on le trompe toujours. Or, Pascal dit bien, il est vrai, que l'extrême esprit est accusé de folie comme l'extrême défaut, et le reste. Mais il s'empresse d'ajouter, « Oh, je ne m'y obstinerai pas. » C'est sortir de l'humanité que de vouloir sortir de la médiocrité. La vraie grandeur ne consiste pas à en sortir, mais au contraire à y rester. Et là est toute la morale, toute la psychologie, toute la rhétorique du XVIIe siècle. Le plus grand dérèglement de l'esprit pour un homme du XVIIe siècle, c'est de donner dans le sens individuel, à plus forte raison d'y abonder. L'idéal qui règle la méditation et l'action, c'est un développement harmonieux de toutes les facultés. Ni l'imagination ne doit avoir le pas sur la raison, ni la raison ne doit étouffer l'imagination. Il est également réputé mauvais de suivre toujours l'impulsion naturelle de la sensibilité et de ne s'y abandonner jamais. Toutes nos facultés nous ont été données pour nous en servir. Il faut trouver entre elles un tempérament, une juste médiocrité. On n'est pas un habile homme parce que l'on est toute sensibilité, toute imagination ou toute raison. Mais on est un habile homme parce que l'on sait faire appel à la raison où il faut, à l'imagination quand il faut, et à la sensibilité comme il faut. C'est l'accord parfait de la sensibilité, de l'imagination et de la raison qui fait la suprême beauté, la beauté classique d'une provinciale de Pascal, d'une comédie de Molière, d'une femme de La Fontaine, d'une tragédie de Racine, de l'oraison funèbre du prince de Condé. Et si par hasard vous fussiez plaint que cette discipline étroite borna votre liberté, on vous eût nettement répondu, mais ce n'est pas s'opposer à un fleuve ni bâtir une digue en son cours pour rompre le lit de son eau que d'élever des quais sur ses rives pour empêcher qu'il ne déborde et ne perde ses eaux dans la campagne. Au contraire, ça lui donnait le moyen de couler plus sûrement en son lit et de suivre plus certainement son cours naturel. Il a continué de suivre quelque chose de cet idéal jusque dans le milieu du XVIIIe siècle. Voyez Voltaire. Fut-il jamais créature plus irritable, plus excitable, moins maîtresse d'elle-même, en apparence, et plus à la merci de son premier mouvement, d'une structure mentale plus fine, ou composée d'atomes plus éthérés et plus vibrants? Connaissez-vous pourtant une fortune littéraire administrée plus habilement, mais surtout, à la prendre dans son ensemble, connaissez-vous une œuvre mieux équilibrée? Voltaire, en ce sens, et quelles que soient d'ailleurs les différences profondes, reste au milieu de son siècle le dernier grand homme du siècle précédent. Au contraire, pourquoi son rival de génie, de gloire et d'influence, pourquoi le citoyen de Genève est-il le représentant de l'esprit nouveau? Précisément ce que, si jamais homme au monde aborda dans le bon sens individuel, c'est Rousseau. On s'imaginait, dit-il quelque part, que je pouvais écrire par métier comme toutes les autres gens de lettres, au lieu que ma nature, je ne suis jamais écrire que par passion. Voilà le grand mot. Il écrit par passion, c'est-à-dire passivement, dans le sens où ce génie le pousse. Il ne lui importe pas que ses idées soient justes, il suffit qu'elles soient siennes. Aussi est-il le premier qui soit avisé que l'analyse et la peinture de soi-même étaient une matière suffisante pour le poète.
Au XVIIe siècle, le moi est haïssable. C'est à peine si l'on supporte le peu de révélations, non pas même sur sa vie privée, mais sur ses goûts et sur l'histoire de son esprit qu'il y a dans les essais de Montaigne. C'est une vanité, et une vanité ridicule et indiscrète à Montaigne, de parler avantageusement de lui-même à tous les moments. Mais c'est une vanité encore plus extravagante à cet auteur de décrire ses défauts. Voilà l'opinion de Malebranche. À dater de Rousseau, ce sont les secrets les plus intimes que l'on ne craindra pas de livrer à leur curiosité publique. La littérature, désormais, devient autobiographique. Dans l'œuvre de Corneille, il y a des Rodrigues, des Camille, des Augustes, des Polyeucs, des Paulines. Dans l'œuvre de Molière, il y a des Arnolphes, des Tartuffes, des Alcestes, des Harpagons. Dans l'œuvre de Racine, il y a des Hermione, des Andromaque, des Agrippines, des Phèdres, dans Athalie. Et dans l'œuvre de Rousseau, il n'y a que Rousseau, comme il n'y a que Chateaubriand dans l'œuvre de Chateaubriand, comme il n'y a que Byron dans l'œuvre de Byron. Le moi, disait une personne qui connaissait bien Byron, quoiqu'elle n'ait pas lassée de le calomnier, Lady Byron, d'elle-même, est le principal mobile de son imagination. Aussi lui est-il difficile de s'enflammer pour un sujet avec lequel son caractère et ses intérêts ne s'identifient point. Mais en introduisant des incidents fictifs, en changeant de scène ou d'époque, il a enveloppé ses révélations poétiques dans un système impénétrable. La pénétrante analyse d'une femme blessée au cœur complète ici les aveux de Rousseau. Incidents fictifs, ce sont ces inventions mélodramatiques dont la littérature du milieu de ce siècle a débordé. Changement de scène, c'est ce sentiment profond de la nature dont la poésie de notre temps s'est imprégnée jusqu'au panthéisme. Changement d'époque, c'est cette passion de la couleur locale dont nous commençons à revenir. Mais vous voyez que rien de tout cela n'empêche cette littérature d'être dans son fond autobiographique, personnelle, subjective. Il faut l'avouer, quelque part où le poète plante le décor de son œuvre, il en est resté le centre. Ce n'est pas à dire que l'œuvre en elle-même soit moins intéressante. Ce n'est pas à dire surtout qu'elle soit d'une psychologie moins neuve. Au contraire, descendre ainsi jusque dans les plus obscures profondeurs du moi, c'était en fait sonder toute une partie de la nature humaine, jusqu'alors presque inexplorée. Mais comme le pêcheur de perles lorsqu'il plonge, à peine depuis quelques secondes a-t-il touché le front, les oreilles lui tintent, et s'il le remontera simplement à la surface, il va rendre le sang. Alors, saisissant et ramassant dans son filet ce qu'il peut, il en rapporte souvent qu'une confusion de coquilles et pas une perle. Ainsi, ces mélancoliques explorateurs d'eux-mêmes, pour une perle qu'ils ont entrevue, quel profond de vase n'ont-ils pas dû remuer ? Et de leur découverte, quel dégoût et quelle souffrance en même temps, que quelque orgueil n'ont-ils pas ramené ? Trois sortes de gens ont une triste idée de la nature humaine. Les vieux magistrats, les confesseurs et les moralistes. J'entends les La Rochefoucauld, les La Bruyère et les Swift. Les poètes en ont une plus vaste encore et plus triste. C'est que ces expériences, c'est ce qu'ils expérimentent résolument sur eux-mêmes. Ils sont le sujet et l'objet à la fois, le sacrificateur et la victime en même temps. C'est ainsi que font les grands poètes. Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps, mais les festins humains qu'ils servent à leur fête ressemblent la plupart à ceux des pélicans. Ajoutez ici, si vous le voulez, les conditions nouvelles non plus de la vie matérielle, mais de la vie intellectuelle. Et joignez à ces vers célèbres d'Alfred de Musset, cet aveu de George Sand. Les ambitions ont pris un caractère d'intensité fébrile. Les âmes surexcitées par d'immenses travaux ont été éprouvées tout à coup par de grandes fatigues et de cuisantes angoisses. Tous les ressorts de l'intérêt personnel, toutes les puissances de l'égoïsme, tendues et développées outre mesure, ont donné naissance à des maux inconnus auxquels la psychologie n'avait point encore essayé a signé de place dans ses annales. C'était au plus fort de la crise du siècle qu'elle écrivait ces mots. Et c'est ici même, et c'était justement à propos d'Obermann. Nous ne commenterons pas ces paroles. Ce serait revenir par un détour à l'analyse de ces causes générales que nous avons d'abord éliminées de cette rapide esquisse. Mais il en est une toutefois dont nous ne saurions omettre d'indiquer l'influence et le contre-coup psychologique sur la littérature du siècle. C'est l'action du génie étranger sur le génie français. Nous ne voulons rechercher ni par quelles œuvres l'Angleterre et l'Allemagne ont agi plus particulièrement sur le génie français. Quoique ce fût un sujet d'autant plus propre à tenter, la critique qui est presque entièrement neuve, il s'est constitué depuis tantôt un siècle une littérature européenne dont les chefs-d'œuvre de laquelle il serait d'ailleurs aussi difficile qu'intéressant de démêler la part de chacune des grandes littératures internationales, anglaises, allemandes, italiennes et françaises. Ce serait comme une carte adressée des courants et contre-courants qui se sont heurtés d'abord et contrariés, pour finir les uns par se tarir et les autres par confondre leurs eaux et couler enfin librement entre deux ou trois directions principales. On pourrait encore, oh, et ce serait déjà limiter le sujet, se demander par quelle qualité, plus particulièrement, le génie de l'Allemagne et celui de l'Angleterre ont agi sur le génie français. Ce qu'il y avait dans les littératures du Nord, comme les a nommées très ingénieusement Madame de Staël, qui fut de nature à tant séduire les héritiers directs de notre XVIIIe siècle. On trouverait sans doute amplement de quoi répondre. Et il apparaîtrait peut-être assez clairement que depuis Burns jusqu'à Shelley, depuis Lessing jusqu'à Henry Heine, elles nous ont inoculé, je ne sais pas quoi de morbifique, je veux dire tout simplement par là quelque chose d'antipathique au génie français. Non omnis fert omnia tellus. Chaque peuple a ses habitudes et chaque race son tempérament. Pauvres écrivains français, disait Henry Heine à nos romantiques, vous êtes un peuple élégant, sociable, raisonnable et vivant, et ce qui est beau, noble et humain est seulement de votre domaine. C'est ce que vos anciens écrivains avaient parfaitement compris, et vous voilà le grand point. Restez soi, voilà le difficile. Et qu'on soit allemand ou français, n'emprunter à des nerfs enjangés que ce que l'on est bien sûr de pouvoir s'assimiler et tourner au profit de sa propre originalité. Pour nous, il nous suffit que les littératures étrangères aient exercé leur action et par ce seul fait troublé l'équilibre du génie français. Pour un artiste amoureux de son art, quelles plus vives inquiétudes, quelles plus poignantes angoisses, quels plus cruels désespoirs voulez-vous qu'il y ait que de s'apercevoir un jour, brusquement, qu'il avait ignoré toute une partie de son art même. C'est un peu ce qui se produisit à la fin du XVIIIe siècle, quand apparurent les chefs-d'œuvre de l'Angleterre et de l'Allemagne. Et ainsi fut complétée la Révolution quelques années auparavant inaugurée par Rousseau. Le XVIIIe siècle avait connu la littérature anglaise, mais, comme on peut le voir par Voltaire et même par Diderot, il n'en avait accepté que ce qui convenait, que ce qu'il en pouvait faire entrer dans les cadres classiques sans les briser, que ce qu'il en pouvait s'approprier sans dérangement pour ses habitants, et sans dommage pour sa tranquillité. Mais avec le siècle suivant et nouveau, la question se pose d'une manière toute nouvelle. On comprend désormais qu'entre l'art de Shakespeare et celui de Racine, il n'y a rien de commun que quelques lois très générales et même très abstraites. Il ne s'agit plus de les comparer, mais de sentir ce qu'il y a dans l'un et dans l'autre d'unique et d'original, c'est-à-dire précisément d'incomparable. Lequel des deux fait-il suivre ? Et lequel imiter ? Le désordre ne se met dans les idées. On se jette sur les traces de Shakespeare avec un enthousiasme irréfléchi. Cependant, toutes les habitudes consacrées par une discipline héréditaire protestent intérieurement et résistent. Tant et si bien que dans ce conflit de l'intelligence et de la volonté, les forces s'épuisent et on ne se convainc au total que d'une chose, qui est l'impuissance de concilier les contradictoires et d'unir ce que la nature, les mœurs, la civilisation, l'histoire même avaient disjoint. Les traces du désordre qui suivit sont partout dans l'histoire de notre littérature contemporaine. On les retrouverait aisément. Parmi tant de formes qu'a revêtu la maladie du siècle, il y en a quelques-unes, certainement, qu'il faut rattacher à une cause. La Mennais se plaignait un jour à Béranger de souffrir du mal du siècle. Il y en a, lui écrivait-il, qui naissent avec une plaie au cœur. Et le chansonnier de lui répondre, « En êtes-vous bien sûr ? Je crois plutôt que nous autres, qui sommes nés pour écrire, grands et petits philosophes et consonniers, nous naissons avec une écritoire dans la cervelle. Écrivez donc, concluait-il, voilà le remède à vos maux. Mais la Mennais, et combien d'autres avec lui, ne pouvait-il pas lui dire à son tour, oui, excellent conseil, mon cher Béranger, si j'étais vous, c'est-à-dire chansonnier français et gaulois, mais l'une de mes plaies précisément, c'est d'avoir ouvert en moi l'accès aux idées de toute couleur et de toute forme qui nous viennent des quatre coins de l'horizon. Je ne sais à quelle voix entendre, je ne sais à quelle voix répondre et solliciter, tirailler, déchirer, comme en tout genre, ce qui me torture. C'est l'impuissance où je suis de me rattacher à quoi que ce soit de fixe et d'inébranlable. Quoi que j'écrive, ce ne sera jamais qu'une expression nouvelle du mal qui me travaille. Et voilà justement la plaie. Il n'est pas impossible que toutes les causes jointes ensemble jettent quelque lumière sur les origines, sur les crises, sur la terminaison de la maladie du siècle. Il s'en faut d'ailleurs qu'elles suffisent à l'expliquer, ou plutôt, elles ne nous permettent pas seulement de le définir. Au fond, c'est que l'on enveloppe ici, comme trop souvent, sous une même appellation, large et lâche, des maladies et des affections très diverses, et qui n'ont guère de commun entre elles qu'être un dérangement de l'équilibre de la faculté bien plus encore que de la santé de l'esprit. Saint-Preux, Werther, Faust, René, Manfred, Obermann, Adolphe, Lélia, pouvez-vous bien imaginer quelques définitions de leur mal qui leur conviennent à tous, quelques descriptions de leur souffrance où ils puissent tous se reconnaître ? C'est assurément le cas de répéter un aphorisme dont les médecins aiment à se servir. Il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades. Il est bon de méditer parfois sur la part de vérité profonde que renferment de telles maximes, volontairement exagérative. Nous aussi, pour peu que nous y regardions de près, nous trouverons autant de variétés de maladies du siècle que nous aurons successivement étudiées de malades. Tantôt, elle nous apparaîtra sous la forme d'une espèce d'angoisse métaphysique, et ce sera, comme dans Faust, le désespoir infini de ne pouvoir comprendre l'énigme du monde et de l'homme, le pourquoi de la naissance, et le pourquoi de la mort, mais surtout le pourquoi de l'existence. Tantôt, comme dans Hobbermann, elle sera toute psychologique, et bien loin de procéder de l'ambition ou de l'intelligence, elle se procédera que de la prédominance excessive de la sensibilité sur l'intelligence, de la concentration voulue de cette sensibilité sur elle-même. Tantôt encore, et c'est le cas des imitateurs, imprudents mais sincères, dont l'histoire n'a pas gardé la mémoire, ce sera la torture indicible de ceux dont les forces défaillent à réaliser le rêve et qui ont succombé sans gloire sous le sentiment de quelques disproportions exorbitantes entre l'intensité de leurs désirs et la faiblesse de leur volonté. Entre toutes ces formes, s'il y a quelque chose de commun, ce n'est rien que de vague, de confus, de flottant, sans toutefois un trait, à savoir la réalité de la souffrance. Aussi n'est-il pas antilittéraire seulement, mais il est inhumain de n'avoir pour ses souffrances que des parties dures. Mais lui discuter le droit de faire entendre sa plainte et regretter au nom d'une morale trop étroite que les Rousseau, les Goethe même, les Chateaubriand, les Byron, les Musset et les Georges Sand aient poussé les cris immortels que leur a jadis arraché la douleur, c'est plus que de la cruauté, c'est de la barbarie.